I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Si tu aimes ce podcast, tu peux me laisser une petite note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui m'aide le plus à faire entendre le podcast. Vous avez déjà tous dû entendre parler du terme « pervers narcissique ». J'avais d'ailleurs consacré un épisode complet sur le sujet que vous pouvez retrouver dans la liste des précédents épisodes. Mais la perversion narcissique peut aussi s'immiscer dans la vie de couple, et c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Sandrine Rouget, autrice du livre « Emprise et perversion narcissique au sein du couple » paru aux éditions d'Angle. Pour cet épisode donc, nous allons discuter en détail de la forme que prend la perversion narcissique au sein du couple, ses caractéristiques, les conséquences sur les victimes, mais aussi la manière, peut-être, de s'en sortir lorsque l'on est concerné. Je vous souhaite une excellente écoute. Et bonjour Sandrine, bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
Bonjour Marie, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Alors moi, je suis auteure et mes domaines de prédilection sont les profils atypiques de type haut potentiel ou autiste et les psychotraumatismes. En parallèle, je fais du conseil en développement commercial et en stratégie de communication pour des micro-entreprises. Je les aide à positionner leur offre de produits ou de services vis-à-vis de leurs concurrents. Dans les petites structures, les singularités du créateur d'entreprise comptent aussi. Comme j'accompagne essentiellement des profils atypiques, j'ai fini par développer une partie de mon activité sur du profilage au potentiel. Et je me nourris beaucoup de cette approche sociologique, que ce soit dans l'écriture de mes livres ou dans mon travail au quotidien.
D'accord. Bah écoute, vaste programme, tu as une vie bien remplie de différentes choses. Alors nous, aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique. C'est un terme qu'on entend beaucoup, en tout cas beaucoup plus ces dernières années. Mais parfois, on ne sait pas forcément le définir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer assez simplement ce qu'on entend par perversion narcissique ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, dès que quelqu'un nous a fait une crasse, que ce soit au travail, en relation amicale ou amoureuse, qu'il est PN. À mon avis, il ne faut pas tout confondre. La perversion narcissique est une forme de relation bien spécifique. Selon moi, elle s'apparente à une guerre des tranchées psychologiques, mais qui ne se dit pas. La victime subit en permanence des agressions, plutôt de type psychologique, et se comporte finalement comme un soldat, puis après un vétéran de guerre, ce dont elle n'a pas conscience. À travers des phrases, des comportements qui peuvent prêter à confusion, les PN laminent psychologiquement leur victime. Et ce processus se répète jour après jour. Mais il est fait de manière tellement détournée et progressive qu'elle ou son entourage ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et ça, c'est lié au fait qu'on ne peut pas imaginer que les pervers narcissiques ont un double visage. Ils se présentent d'ailleurs comme des personnes charismatiques qui semblent plutôt inoffensives, quoique un peu maladroites, et qui dégagent une grande confiance en eux et une capacité à louvoyer en société qui attire tout le monde.
Et du coup, la perversion narcissique, c'est vraiment une emprise, si j'ai bien compris, sur une victime.
Oui.
Qui s'apparente à quelque chose de très, de parfois très, très subtil, mais qui est bien présent.
Oui, en fait, c'est une volonté très féroce de dominer une autre personne, d'avoir de l'ascendant, avec en sous-jacent la pulsion d'exterminer psychiquement cette personne. Donc c'est très très caractéristique.
Et selon toi, est-ce que, pour imaginer un petit peu, à quoi on reconnaît quelqu'un qui est pervers narcissique ? Ça peut être un homme ou une femme, mais
Est-ce qu'il y a un profil type ou des caractéristiques types de quelqu'un qui est pervers narcissique ?
Il y a des caractéristiques types, mais qui ne sont pas exactement là où on pourrait les attendre. Comme tu dis, ça peut être autant un homme qu'une femme, qui peut être très diplômé et bien intégré socialement ou qui vit plutôt à l'écart de la société. En fait, les spécificités se jouent ailleurs. Ils sont particulièrement centrés sur leurs besoins, lâches, radins, et surtout leurs émotions sont comme bloquées. Ils ont aussi la capacité à vite cerner les gens, à se jouer des règles. Ils manient généralement le verbe avec beaucoup d'agilité et amusent souvent la galerie d'ailleurs avec un humour qui est assez caustique, mais qui est toujours aux dépens d'autrui. Ils peuvent aussi dégager une sorte de bonhomie. Pourtant, ils ont un sens de la compétition qui est très développé. Ils ont besoin de gagner tout le temps sur tous les sujets, quoi qu'il arrive, même en face de personnes plus faibles qu'eux ou de eux ou elles, hein, ou d'enfants. Et ils s'approprient les réussites de leurs victimes ou font en sorte de les torpiller s'ils ne peuvent pas gagner.
Est-ce que ces personnes-là ont conscience, à ton avis, d'être dans une attitude complètement délétère ?
Alors ça, c'est un vrai débat. Et tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. À mon sens, au départ, les PN sont vraiment séduits par leurs victimes, sincèrement, parce qu'ils pensent qu'ils vont apprendre le secret de la résilience de la victime, de cette façon de pétiller, parce qu'au fond d'eux, ils ont vraiment un vide émotionnel qui est immense. Comme ils ont aussi une peur viscérale de l'abandon, ils font en sorte d'éblouir la victime pour vite l'apprivoiser. Mais cette empathie et cette énergie débordante de la victime les agacent vite, car elles remettent en question le fonctionnement interne du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Donc très vite, ils vont tester la victime à travers des petites agressions verbales ou des coups bas pour voir comment elle réagit. Et ça les rassure sur le fait qu'avoir trop d'émotions nuit au jugement et au louvoiement social. Ensuite, ils fonctionnent comme des personnes physiquement violentes qui diraient « Regarde ce que tu me fais faire, il faut bien qu'on t'apprenne la vie car tu ne comprends rien ». Ils ont conscience de ce qu'ils font, mais ne se sentent pas coupables pour autant. Par contre, à mon avis, ils compartimentent les événements, quitte à parfois réécrire une partie de l'histoire pour en rester le héros. C'est vraiment nécessaire à leur survie psychique et narcissique. Donc, ils n'ont pas la capacité d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'ils font. Et cette incapacité-là, c'est quelque part ce qui les fait rester dans leur mécanisme, parce que s'ils ouvraient les yeux, en fait, ils décompenseraient et se suicideraient. C'est ce qui arrive aux quelques pervers narcissiques qui se rendent compte de ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent.
J'en avais parlé un jour avec un psychologue, et je lui avais demandé s'il avait déjà rencontré des pervers narcissiques, et il me disait que oui, c'était très 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 rare, mais qu'en fait, il valait mieux pour les pervers narcissiques de ne pas sortir de leur situation, parce que si jamais ils se rendaient compte de la gravité de ce qu'ils font et de leurs actes, ils décompenseraient et ils tomberaient en dépression profonde. Ce psychologue m'avait dit que c'était excessivement rare et surtout très très difficile comme patient à avoir, parce qu'en fait c'est des personnes qu'il faut presque ne pas sortir du trou, parce que sinon ils décompensent complètement, et c'est des personnes très difficiles à soigner. Donc
Oui, alors là par contre tous les professionnels hein, sont unanimes là-dessus, c'est-à-dire que dans mes recherches, moi ce que j'ai identifié, c'est que la victime comme le pervers narcissique ont en commun d'avoir vécu un ou plusieurs événements traumatisants. Dans le cas du pervers narcissique, cet événement-là a vraiment disloqué de façon définitive leur miroir émotionnel. Ils n'ont plus la capacité de ressentir les choses comme tout le monde. Ils sont reconstruits tout un mécanisme de survie suite à cet événement traumatisant qui garantit en fait le fait de pouvoir se lever le matin, de fonctionner. Malheureusement, derrière, ils viennent de remplir ce vide-là en venant se prouver en permanence leur ascendant sur l'autre et le fait de pouvoir les emmener là où ils veulent, et c'est souvent dans le négatif en leur faisant du mal, mais c'est parce que c'est vraiment nécessaire à leur survie psychique.
Est-ce qu'un pervers narcissique naît pervers narcissique ?
Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est appris. On pourrait imaginer que c'est une personne qui était excessivement sensible et qui a vécu un événement. C'est l'événement qui l'a définitivement traumatisé et qui l'a dissocié, qui a vraiment coupé en deux son mental et son cœur, qui fait qu'en fait, la reconnexion n'est plus possible.
Et alors là, on a un petit peu parlé du pervers narcissique et de ses caractéristiques, mais il s'avère que les victimes potentielles des pervers narcissiques ont également des éléments de personnalité qui sont bien spécifiques. Quels sont, selon toi, les critères d'une personne, on va dire, qui peut être victime d'un pervers narcissique ?
Oui, en fait, c'est vrai que par simplicité de langage, on parle souvent de PN et de victime, et ça facilite les échanges, mais c'est la relation à proprement parler qui est perverse narcissique. Et en creusant beaucoup le sujet, j'ai découvert que les victimes présentaient toutes des caractéristiques communes. Elles ont vécu elles-mêmes un événement traumatisant déterminant dans leur enfance, mais à l'inverse du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, si on reprend l'image du miroir émotionnel, cet événement ne les a pas n'a pas disloqué définitivement leur miroir émotionnel. Il est juste rafistolé à certains endroits stratégiques. Elles ont cette faille qui est aussi une faille narcissique. Et leur particularité, c'est qu'elles ont du mal à se sentir légitimes à occuper leur place dans la société. Elles doutent d'elles en permanence. Et quelque part, elles rêvent d'un prince ou d'une princesse qui viendrait leur offrir cette place légitime dans le monde et panser leurs blessures, tout en étant convaincues inconsciemment de ne pas mériter vraiment cette place. Pourtant, elles ont tout en commun d'être profondément résilientes, plutôt très énergiques et de croquer la vie à pleines dents. Et ça peut vraiment autant être des personnes, hommes ou femmes, bien entourées ou plus isolées, avec un caractère fort ou plus discret, qui réussissent professionnellement ou pas. Mais leur particularité, c'est qu'au fond d'elles, elles craignent d'être cassées intérieurement et de ne pas vraiment mériter d'être aimées.
Ouais, c'est des personnes qui sont souvent très sensibles. Et tu parlais d'ailleurs dans ton livre que il y avait parfois des corrélations entre les personnes au potentiel et potentiellement victimes.
Oui, toutes les victimes d'emprise ne sont pas forcément hypersensibles ou au potentiel, mais ce que j'ai identifié, c'est que dans ces cas particuliers, les pervers narcissiques avaient vraiment une façon bien stratégique d'utiliser leur emprise en s'appuyant sur les caractéristiques au potentiel de la personne. Elles vont venir épuiser toute l'hypersensorialité de la victime, cette façon de capter plus intensément les odeurs, les lumières, les sons. Donc elles vont envahir en permanence leur environnement pour les épuiser. Ce sont aussi des personnes qui sont hyperactives. Donc elles vont faire en sorte de stimuler cette hyperactivité-là pour les pousser au burn-out. Ce sont aussi des personnes qui doutent en permanence parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas toujours la vérité absolue et qu'elles peuvent se remettre en question et qu'on apprend toujours de ses erreurs. Et qui sont aussi très empathiques en général. Et donc, du coup, plutôt que d'écouter ce qu'elles peuvent ressentir profondément, elles vont plutôt être à l'écoute de leur partenaire de vie, essayer de se mettre à la place de celui-ci ou de cette dernière. Tous ces éléments-là font que, en fait, ça tourne en boucle dans leur tête. Elles n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles sont en train de jouer. Donc, dans le cas spécifique de ce genre de victime, l'emprise perverse narcissique peut durer très longtemps et faire beaucoup de dégâts.
Et dans ton livre, tu abordes beaucoup plus spécifiquement la question de la perversion narcissique au sein du couple. Et bon, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je connais mal. Et étonnamment, les couples au sein desquels se trouve un pervers narcissique et une victime sont parfois difficiles à reconnaître parce qu'on dirait qu'ils forment un couple idéal, un peu parfait. Peux-tu nous détailler un petit peu les mécanismes de ce type de relation ?
Oui, en fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi les victimes restaient parfois si longtemps malgré la violence psychologique de ce qu'elles subissaient. J'ai interviewé une vingtaine de victimes sur de longs entretiens et j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Et en fait, j'ai identifié qu'il y avait plusieurs phases dans cette relation et j'ai retrouvé ça aussi dans la littérature qu'on peut trouver sur l'emprise perverse narcissique. En fait, au départ, les PN font ressentir l'équivalent d'un shoot d'existence à la victime. Ils sont très présents, ils célèbrent la victime à tout va, lui déroulent le tapis rouge et se calent de façon parfaite au tempo et aux attentes de la victime. Donc la relation est intense et fusionnelle. Et cette période est si réparatrice au niveau narcissique pour la victime que cela fonctionne chez elle comme une drogue. Et elle va passer le reste de la relation à essayer de revivre ce shoot qui reste gravé dans sa mémoire. En fait, comme on disait un peu plus tôt, c'est la relation qui est perverse narcissique. Donc du coup, ce sont deux failles qui se sont attirées. Donc elles présentent à l'entourage et à la société un couple qui peut être très fusionnel et qui semble très complémentaire. C'est-à-dire on va avoir la partenaire perverse narcissique qui va démontrer une certaine assurance et qui va sembler savoir comment se comporter en société. Et puis, on va avoir la victime qui, elle ou lui, va être plus sensible, plus attentif à tout le monde, plus aux petits soins. Donc, il fonctionne vraiment comme un couple qui est très complémentaire, ouais, le couple parfait. Une fois que cette première image est donnée et que la victime est bien ficelée, il va avoir une seconde phase de mise sous emprise progressive, où là, en fait, le ou la perverse narcissique va faire vivre des alternances de remarques et de gestes qui visent à la déstabiliser, puis tout de suite derrière des périodes de reséduction pour la garder sous contrôle. Oui. Donc, la victime, là, note bien que certains comportements ne vont pas, mais elle reste parce qu'elle est accrochée à cet idéal et à ce shoot de séduction qu'elle a vécu au départ, et surtout à cet idéal qu'elle s'est forgé de son partenaire. La troisième phase, c'est qu'une fois que la victime est bien ferrée, ce qui arrive assez vite en général, donc dans le cas d'une relation amoureuse, ça peut être un mariage, un enfant, une expatriation, une maison à retaper à deux. Là, la destruction psychologique est de moins en moins discrète. En fait, si je fais une petite aparté, on retrouve ces phases-là aussi, par exemple, dans une relation amicale ou dans une relation professionnelle, où au début, il va avoir aussi cette phase de lune de miel. On retrouve toujours ces mécanismes-là. Dans le cas d'une relation amoureuse, c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'est qu'on est vraiment dans une relation où on se met à nu, où on offre toute sa vulnérabilité à l'autre et sa confiance, où on ne s'attend absolument pas à ce que cette vulnérabilité-là soit torpillée en permanence. C'est ce qui faisait tout l'intérêt et l'horreur pour moi de ce sujet et qui méritait d'être traité en profondeur. Et puis après, on va arriver sur une dernière phase, c'est qu'au fil du temps, les remarques vont devenir de plus en plus frontales et acerbes, et les actes de plus en plus agressifs. Mais à ce stade-là, la victime est tellement épuisée psychiquement et physiquement qu'elle n'a plus vraiment les moyens de prendre du recul. Et comme sa confiance en elle a été régulièrement laminée, elle a du mal à envisager qu'elle a l'énergie et les moyens de quitter cette relation. Donc du coup, elle reste.
Du coup, c'est la dernière étape, c'est la plus difficile pour s'en sortir, parce que du coup, la victime est complètement devenue dépendante de cette relation, quelque part, dans laquelle elle se fait régulièrement détruire, puis rattraper par le pervers narcissique qui essaye de la rattraper. Mais il y a, enfin, dans la quatrième phase, je pense que les personnes proches peuvent le voir quand même, parce qu'il y a des pics, il y a des remarques...
En fait, tout au long de la relation, il y a ces petits pics, ces petites remarques. Oh, ma chérie, vraiment, t'es vraiment pas douée en cuisine, hein, tu nous rates toujours le repas, mais on t'aime bien. Et tout le monde rigole, tu vois, ou tu fais la maline, là, t'as bien réussi ta présentation en entreprise, t'as l'air toute contente, mais en vrai, t'y avais passé tellement de temps que heureusement que t'as réussi, parce que autrement, on se demanderait un peu ce que tu fous dans ce travail. Mais en fait, c'est fait de façon tellement dans une ambiance où le ou la perverse narcissique est tellement caustique que ça passe, en fait, ça passe en permanence. Mais toutes les victimes m'ont décrite ce processus qui pourrait se voir même physiquement de dégradation. C'est-à-dire qu'au début de la rencontre, la victime est physiquement plutôt apprêtée, pimpante, jolie. Et plus le temps passe, plus elle ressemble de moins en moins à quelque chose. C'est comme si elle s'éteignait, elle fait plus attention à son allure. De toute façon, elle est épuisée, elle dort de moins en moins bien. Donc, ça peut se noter aussi quand on est dans l'entourage, dans sa façon d'être.
Mais du coup, pour en venir un peu à la relation perverse narcissique, est-ce que tu as des phrases types ou des attitudes types que les pervers narcissiques ont en général vis-à-vis de leurs victimes ?
Je me suis rendu compte que c'était effectivement très compliqué d'expliquer l'emprise, d'expliquer en quoi consiste ce laminage psychologique. Donc du coup, je suis allée traquer ces toutes petites phrases du quotidien qui ont l'air de rien, mais qui viennent à chaque fois dire à la victime soit que ses besoins ne comptent pas, soit qu'elle ne vaut rien, ou alors qu'elle court un risque vital. Et ça passe vraiment par des petites choses de tous les jours. Ça peut être « Tu comptes t'habiller comme ça ce soir ?»« Ton mauvais goût est sans limite, ma chérie. » Et la personne dit ça à la chérie qui travaille dans la mode ou les arts, par exemple. Mais comme elle n'a pas confiance en elle et elle n'aime pas le conflit, elle finit par obtempérer. Ça peut être aussi « tu as mal compris, j'ai jamais dit ça, tu comprends pas l'humour ». Et ils peuvent mentir sans vergogne, ce qui est très difficile à imaginer pour la victime en général, qui finit par tourner en boucle ce qui s'est passé et finit par douter de ce qu'elle a pu comprendre ou de ce qui a pu vraiment se dérouler.
Et puis ça la décrédibilise quelque part.
Oui, c'est ça. Ça peut être aussi « oh mais c'est pas ma faute, je fais ce que je peux ». Et ils trouvent une pirouette pour se dédouaner alors que la victime comptait sur eux pour quelque chose d'important comme aller récupérer les enfants à la sortie de l'école ou leur passer les clés de la voiture alors qu'elle devait passer un entretien d'embauche. Et il se trouve que le pervers narcissique est parti avec les clés le matin au travail. Voilà. Et en fait, c'est suffisamment plausible comme explication pour que la victime ne puisse pas en vouloir au pervers narcissique et reste avec sa colère parce qu'elle a quand même été plantée, quoi. Et elle finit par contre par retenir qu'elle doit tout assumer toute seule et qu'elle ne peut pas compter sur l'autre. Ça peut être aussi « oh, tu me connais, tu sais bien ce que je veux ». Et donc, du coup, le ou la perverse narcissique laisse la victime gérer le projet en question. Ça peut être l'organisation d'un voyage ou l'organisation d'une fête. Mais une fois que c'est ficelé, le ou la PN va manifester sa déception, ce qui met la victime en hypervigilance. Ça peut être aussi des choses qui vont isoler la victime en la mettant en méfiance. Des choses du genre, tu sais ce qu'on dit dans ton dos ? On abuse si facilement de ta confiance, ma chérie. Et du coup, la victime se met à se méfier et à s'isoler parce qu'elle ne sait plus sur qui elle peut compter. Ça peut être aussi « oh, ce qui est à toi est à moi ». Après tout, on forme une équipe, non ? Et du coup, le ou la PN s'approprie comme ça les réussites de l'autre ou les minimise, puisque la réussite de la victime est aussi sa réussite à lui.
Donc ça, c'est vraiment des petites piques, on va dire, des exemples. Bon, ça peut prendre évidemment une forme très différente selon les couples.
Oui.
Dans quel état est la victime et à quel moment est-ce qu'elle se rend compte de l'emprise dans laquelle elle est ? Est-ce que déjà c'est possible, cette prise de conscience ? Et en général, à quel moment est-ce que ça survient ?
Ah, oui, la prise de conscience est possible. En fait, tout au long de la relation, et ça c'est vrai dès le début, la victime s'interroge régulièrement sur son couple parce qu'elle note bien certains comportements qui ne sont pas vraiment acceptables de la part de sa moitié, mais en fait, elle finit par rationaliser, par basculer en tout mental, en se disant que personne n'est parfait. Et elle est souvent d'ailleurs confortée dans cette idée par son entourage. Et parce que l'entourage n'a pas idée de ce qui se joue à huis clos et s'appuie sur l'image charismatique du ou de la PN. Tous ceux et celles que j'ai interviewés et qui ont rompu avec leur partenaire nocif, décrivent cet événement de trop qui les a fait réagir. Ce moment particulier où la victime a pris le partenaire ou la partenaire de la main dans le sac, démontrant sans plus aucun doute possible son double visage. Il peut s'agir d'un geste déplacé trop sur la victime ou les enfants, qui peut être un geste violent, hein. Ça peut être une somme d'argent qui a été empruntée ou volée à un membre de la famille. Ça peut être un torpillage de trop concernant le travail de la victime, la découverte d'un adultère ou une proposition de décohabitation. Il y a certains pervers narcissiques, une fois qu'ils ont épuisé ou sucé toute l'énergie de la victime, en fait, s'en désintéressent. Donc, ils basculent sur une autre victime. Dans tous les cas, c'est un événement qui est suffisamment factuel pour déchirer le voile de prince charmant ou de princesse charmante que le ou la peine portait jusque-là aux yeux de la victime. C'est ça, en fait, qui est l'élément déclencheur. Parfois, on peut avoir une émission de radio ou un podcast comme le tien ou une lecture sur la manipulation perverse narcissique. Ça peut être aussi un médecin qui est consulté pour dépression ou burn-out ou l'intervention de l'entourage qui va enfoncer ce clou. Et là, en fait, la victime part en général.
Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix parce qu'on ne peut pas soigner un PN, enfin un pervers narcissique, où on peut difficilement le faire se remettre en question. Donc la seule solution, c'est de partir. Mais tu disais le cas où le PN agit à l'encontre des enfants. Donc je voulais justement poser cette question-là. Quand il y a des enfants qui sont issus d'un couple avec un pervers narcissique, comment est-ce qu'en général le pervers narcissique se comporte avec les enfants? Et puis la question un petit peu aussi logique qui en découle, est-ce qu'un pervers narcissique donne forcément naissance à un futur PN.
Ça, c'est une question que me posent toutes les victimes d'emprise que j'ai pu rencontrer sur les deux sujets. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très compliqué d'envisager qu'un homme ou une femme puisse ne pas aimer au moins ses enfants. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pervers narcissiques considèrent tous les autres comme des objets et pas comme des sujets. Donc, c'est également vrai pour leurs partenaires amoureux et pour leurs enfants. Ils ont en permanence besoin de ces objets extérieurs pour expulser leur frustration sur eux et se survaloriser en parallèle. Dans le cas spécifique des enfants, en fait, au départ, le projet d'enfant est une manière pour les pervers narcissiques de ficeler la victime. Et ça passe plutôt inaperçu car pour la plupart des gens, c'est assez naturel de vouloir des enfants quand on est en couple. Ensuite, quand les enfants sont petits, ils s'en désintéressent ou peuvent s'agacer régulièrement de ne plus être le centre d'attention de leur amoureux ou de leur amoureuse. Ils peuvent éventuellement montrer à quel point ce sont des parents parfaits en société, mais à huis clos, ce sont des personnes qui manquent furieusement de vigilance vis-à-vis de leurs enfants, ce qui fait que ces derniers courent souvent un danger quand ils sont sous leur surveillance, ce qui pousse la victime à s'occuper en permanence des enfants et à être en hypervigilance permanente, ce dont elle n'a pas forcément conscience. Ensuite, quand les enfants grandissent, quand il y en a plusieurs, dans le cas des fratries, les pervers narcissiques sèment la zizanie en montrant ostensiblement leur préférence pour l'un des enfants et en méprisant l'autre.
Donc, c'est horrible.
Oui, c'est assez étonnant, les témoignages que tu peux avoir sur le sujet. En fait, dans ce procédé, ils cherchent un héritier. Et les enfants qui n'ont pas conscience de ce qu'ils jouent sont, eux, en conflit de loyauté. Ils essaient plus facilement de séduire leurs parents pour avoir un petit peu d'amour et ont tendance, en fait, à se fâcher contre leur sœur ou leur frère qui représente un obstacle à cet amour pour eux. C'est comme ça qu'ils le ressentent, si tu veux. Et donc ça, c'est vraiment une réalité que tu entends chez tous les parents victimes qui t'expliquent ce qui a pu se passer avec leurs enfants. Et au moment de la rupture, les PN essayent en général de récupérer la garde des enfants. Mais c'est surtout pour avoir un moyen de pression sur la victime et essayer de lui faire du mal. Et comme les victimes sont épuisées et doutent à ce moment-là de leur capacité parentale, il arrive assez souvent, malheureusement, qu'elles laissent cette garde leur échapper ou qu'elles acceptent une garde alternée. Et à mon sens, quand un parent, notamment une mère, accepte ce genre de garde pour un enfant qui a moins de 3 ans, ça devrait interpeller des assistantes sociales ou la justice. Mais malheureusement, elles ne sont pas suffisamment, enfin, ces personnes-là, assistantes sociales ou justice, ne sont pas encore assez formées au stress narcissique pour comprendre ce qui se joue. Pour répondre à ta deuxième question, rien n'est prédestiné. C'est-à-dire, comme on a pu l'évoquer un peu plus tôt, les pervers narcissiques sont des personnes qui ont vécu un ou plusieurs traumatismes qui a fini par les dissocier définitivement. On peut trouver chez des enfants de PN une première carapace de dissociation, ce qu'on peut appeler un faux self, qu'ils développent à force de vivre le chaud-froid parental, mais elle n'est pas forcément définitive. Elle leur sert de protection en attendant de pouvoir quitter le foyer familial, ce qu'ils font généralement le plus vite possible. À l'adolescence aussi, on peut voir ce genre d'enfant tester les limites, voire manipuler par mimétisme, si tu veux. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu faire chez leurs parents. Mais finalement, tous les ados testent les limites dans cette période particulière parce qu'ils se cherchent un peu. Tant qu'il n'y a pas de jouissance dans le fait de faire du mal à son parent et que cette jouissance n'est pas répétitive, ce qui fait vraiment le propre de la perversion narcissique, à mon avis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet et qui démontrent que jusqu'à 21 ans, la plasticité neurocognitive de l'enfant et émotionnelle de l'enfant est suffisamment importante pour espérer qu'il ne tombe pas dans ce genre de dislocation définitive. Donc, il faut continuer à y croire, à mon sens.
Oui, donc en fait, comme tu le disais plus tôt, comme la perversion narcissique provient d'abord d'un traumatisme vécu, un PN ne met pas forcément au monde un futur PN, heureusement. Mais du coup, je t'avais un petit peu posé la question précédemment, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il est possible quand même pour le pervers narcissique d'avoir de l'empathie pour sa victime ?
Malheureusement, je ne crois pas. Vraiment pas. C'est-à-dire que ils plaignent la victime. Ils la plaignent d'être aussi faible au fond d'eux ou d'elles, les pervers narcissiques se disent tu vois, regarde, avec toutes tes émotions et toute ta façon d'aimer les gens et de vouloir donner trop, regarde comme ça te rend fragile. Et ça vient vraiment les conforter dans leur mécanisme interne. Donc, ils ne sont pas capables d'empathie. Ça, c'est vraiment une réalité dont il faut se convaincre. Parce que tant qu'on pense qu'on peut les guérir ou qu'on peut essayer de les comprendre, en fait, on reste dans l'emprise. Et c'est dangereux, je pense.
Oui, c'est le risque de la part des victimes d'espérer que la personne change, alors qu'en fait, c'est impossible qu'elle change. Est-ce que quand il y a des disputes entre un pervers narcissique et une victime, comment se jouent un petit peu ces disputes-là ? Comment ça se passe en cas de conflit ?
Oui, alors il faut comprendre que les pervers narcissiques adorent le conflit. Tu vois, comme ils ont ce sens de la compétition qui est très très développé chez eux, même si ça se voit pas, et qu'ils ne sont pas en prise avec leurs émotions, eux, ils aiment cet environnement qui est plein de colère, d'énervement. Et dans ces cas-là, ils peuvent compter sur toutes leurs facultés stratégiques pour ça. Parce qu'ils ont besoin de sortir gagnant, quoi qu'il arrive. Donc, ils vont jouer avec les mots, ils vont mentir sans scier, ils vont aller appuyer là où ça fait mal. Leur objectif va être de retourner le cerveau de la victime pour avoir gain de cause. À l'inverse, dans ces conflits-là, la victime a une tendance spécifique à se figer. Elle se dissocie, en fait, dans les cas de conflit. Ce comportement est une conséquence psychotraumatique d'un événement qu'elles ont vécu plus jeune. Au moment de cet événement traumatisant, elles se sont figées. Et le fait de se figer comme ça, c'est ce qui leur a sauvé la vie. Du coup, le cerveau a retenu qu'il était préférable d'adopter ce genre de comportement dans des situations d'agression, qu'elles soient verbales ou plus physiques. Donc, elles ne réagissent pas pour se laisser le temps d'envisager toutes les options et pour éviter, en fait, de ne plus être aimées par la personne d'en face si jamais elle disait un mot trop haut, plus haut que l'autre. Ce comportement initial qui a été vital et salvateur pour elle, en fait, à la longue, il est devenu contre-productif. Et le pervers narcissique, c'est quelque chose qu'il va tester presque tout de suite chez la victime, dès la rencontre. Et à mon sens, la meilleure façon de ne plus vivre des relations nocives ou de ne pas en vivre, c'est de développer sa capacité à mordre, à réagir immédiatement quand on nous fait une remarque déplacée pour indiquer à l'autre le message « passe ton chemin avec moi, tu vas pas pouvoir t'amuser ». Donc vraiment, poursuis ta route, là t'es pas au bon endroit.
Ça demande quand même une certaine confiance en soi et une certaine connaissance aussi du type de profil qu'elles peuvent avoir en face. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, parfois tu peux être dans une position un peu de fragilité et tu peux rapidement te faire mener par la baguette, on va dire, par quelqu'un qui a cette force charismatique. Enfin, ça ne doit pas être quand même si évident que ça.
Oui. En fait, il y a tout un ensemble de choses. Ce qui est clair, c'est que une victime d'emprise perverse narcissique est quelqu'un qui a une faille. Et en fait, dans cette faille, elle a vraiment un doute très fort, même si elle n'en a pas forcément conscience, sur ses compétences et sur la valeur qu'elle peut avoir dans la société. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent être travaillées pour éviter de vivre des relations nocives, mais quelles qu'elles soient. Là, on parle d'emprise perverse narcissique, mais si on va sur le triangle de Karpman, le triangle du sauveur, qui ne donne pas forcément des relations perverses narcissiques, on peut aussi vivre des choses qui ne sont pas très saines, en lien avec sa faille narcissique, sa fragilité. En fait, dans tout type de relation qui n'est pas forcément très saine, on a ce problème de confiance en soi et d'estime un peu fragile au départ.
Si tu peux nous rappeler le triangle de Karpman, c'est quand il y a un sauveur, un agresseur, il me semble,
et
une victime.
C'est ça, c'est le triangle victime-bourreau-sauveur, dans lequel, en fait, la victime va laisser affleurer le besoin d'être sauvée. Donc, le sauveur, et en général, les victimes d'emprise perverse narcissique ont un gros syndrome du sauveur, vont tout de suite intervenir pour venir en aide de la victime et la défendre contre un bourreau. Et le problème, en fait, c'est que ce mécanisme-là finit par se retourner à un moment donné contre le sauveur. La victime ne supportant plus d'être dans une relation où elle se sent presque en soumission, ce qui devient intolérable pour elle. Et du coup, de victime, elle passe à bourreau. et se retourne contre le ouais. sauveur. Voilà, donc c'est des relations qui, à un moment donné, sont un peu réparatrices pour tout le monde parce qu'elles viennent éteindre ce sentiment de fragilité, mais en même temps, derrière, elles finissent par faire du mal.
Et bon, là, on est sur un autre sujet, mais c'est quand même super intéressant. Quand il y a une victime qui est dans une emprise narcissique, est-ce qu'il y a un risque d'habituation, que finalement, ça soit presque plus simple de s'accommoder dans l'inconfort plutôt que de se rebeller?
Oui, en fait, moi, ce que j'ai identifié, c'est que, notamment chez les victimes d'emprises perverses narcissiques chroniques, c'est-à-dire qu'elles le vivent à plusieurs reprises, que ce soit au travail, en amitié ou dans leur couple, ce sont généralement des personnes qui ont déjà vécu ce genre de relation dans l'enfance, avec un des deux parents, ou si c'est pas à ce stade-là, en tout cas, qui ont vécu un des deux parents qui les ont habituées à beaucoup de froideur émotionnelle. Elles se sont habituées à ce genre de comportement et elles ont leur cerveau pour les faire survivre, à muter psychiquement pour leur faire croire qu'elles aimaient être traitées comme ça et que c'était de l'amour d'être traitées de la sorte. Il y a ce risque-là déjà au niveau histoire de vie. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que lorsque une victime reste très longtemps au contact d'un ou d'une perverse narcissique, au fil du temps, elle est de plus en plus fatiguée psychiquement et physiquement. Et en parallèle de ça, plus ça va, plus en fait, elle est en hypervigilance. Si on reprend l'image de la guerre des tranchées psychologiques que j'ai pu évoquer plus tôt, en fait, elles sont dans une sorte de syndrome du survivant. Elles ont peur et à la fois elles sont sidérées. Donc elles se sentent comme impuissantes et elles ont une posture où elles essayent en permanence d'éviter de vivre des choses. Donc elles essayent de border le terrain en permanence et puis elles sont hypervigilantes de tout. Et en même temps, elles ont un sentiment de plus en plus accru de tristesse et de honte. Elles ont aussi un sommeil qui est non réparateur, qui peut être entrecoupé de cauchemars. Elles peuvent avoir des pertes de mémoire et peuvent sombrer dans des addictions, en fait, qui leur permettent de lâcher prise de ce contact qui est devenu trop anxiogène pour elles. On peut retrouver toutes ces choses-là chez une victime. Mais ce que j'ai identifié aussi, c'est que les victimes ont vraiment une capacité de résilience qui est très particulière. Donc, à un moment ou à un autre, si elles prennent conscience de ce qu'elles vivent, si elles ouvrent les yeux, même si elles sont épuisées physiquement et émotionnellement, elles peuvent aller trouver au plus profond d'elles-mêmes la capacité de s'en sortir, de quitter l'emprise et de chercher à se réparer de tout ce qu'elles ont vécu.
Et dans ton livre, à un moment donné, tu parles du syndrome de Stockholm. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit et comment ça se manifeste dans un couple où il y a une victime et un PN ?
Ça m'est venu parce que j'ai été étonnée de constater que certaines des victimes que j'ai rencontrées s'en étaient sorties, s'étaient reconstruites, étaient devenues des hommes plutôt qui réussissaient dans leur vie ou des femmes très fortes. Pour autant, elles continuaient à se soumettre aux injonctions de leur ex-partenaire, notamment à travers les enfants quand il y en avait. Et ça, même des années plus tard. Et donc, c'est ce qui m'a mis sur la piste du syndrome de Stockholm. Les victimes ont une peur viscérale qui est souvent très inconsciente du ou de la pervers narcissique. Donc, si on revient à ce syndrome, le syndrome de Stockholm a été analysé lors d'une prise d'otage en Suède, au cours de laquelle les otages ont pris le parti pour leur ravisseur. Ce qui illustre le mieux aujourd'hui ce syndrome, c'est la série La Casa de Papel. En fait, dès le départ, la victime ressent une forme d'attraction pour la capacité du pervers narcissique à contourner les lois et à défendre sa part du lion que la victime n'a pas en tant que telle. Mais quelque part, ça suscite aussi chez elle une forme de peur. Du coup, elle va idéaliser son partenaire, ce qui va lui permettre de mobiliser son empathie pour essayer de comprendre ses comportements. Après, sur la durée, ce mécanisme va se reproduire encore et encore, et son cerveau va capter qu'elle n'a pas les moyens ou plus les moyens de se soustraire au contexte d'emprise, du moins sans dommage pour elle, ce qui va la pousser à développer un processus inconscient de survie qui va consister à plaire à son agresseur pour minimiser les méfaits sur elle.
Oui, je vois. Donc, c'est quelque part se soumettre à l'agresseur et faire en sorte que tout se passe pour le mieux par peur, en fait, inconsciente.
Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui va donner que la victime en société va prendre la défense du ou de la PN quand elle ne va pas carrément adopter des comportements qui vont dans le sens du pervers narcissique ou de la perverse, alors qu'ils vont à l'encontre de ses valeurs. Mais c'est parce qu'elle sent qu'elle est dans une situation où il vaut mieux qu'elle prenne la défense du pervers narcissique ou de la perverse, parce qu'autrement, elle va prendre cher. Et ça, en fait, après avoir étudié ce qui pouvait se reproduire dans toutes les histoires, c'est un processus que le pervers narcissique ou la perverse organise. C'est-à-dire que ses mots vont dire « je t'aime », alors que son corps va être dans une posture agressive, mais qui va passer par des petits riens. Donc ça peut être une conduite à risque en voiture au moment où la victime a dit un mot qui n'a pas plu au pervers narcissique. Ça peut être jouer à table avec un couteau pointé nonchalamment en direction de la victime quand elle a dit quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être une partie de ping-pong ou de tennis où le ou la pervers narcissique va envoyer les balles de façon extrêmement violente sur la victime. Le mental de la victime vient lui dire, bah non, il est en train de te dire qu'il t'aime, donc tout va bien, alors que tout le corps engrange encore et encore ces petits détails qui viennent lui dire, en fait, tu risques ta vie, fais gaffe, quoi.
Non, c'est fou, mais quelque part, c'est plus simple pour la victime de se soumettre à un moment donné plutôt que d'affronter, parce que elle sait peut-être pas comment affronter, et en fait, affronter le pervers narcissique, ça serait quelque part lui donner encore plus de pouvoir.
Ben en tout cas, elle a très peur de ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en train de dire que les victimes sont en face de quelqu'un qui essaye de les tuer psychiquement. Donc c'est quand même effroyable ce qu'on est en train de raconter, et pour autant c'est vraiment la réalité de ce que vivent les victimes d'emprise, et ça se passe alors que les victimes ont le sentiment de pas avoir le mode d'emploi social, alors qu'à l'inverse les pervers narcissiques sont des personnes qui brillent en société. Donc du coup, les victimes ont conscience profondément que si elles essayent de raconter ça à quelqu'un autour d'elles, elles vont passer pour folles, parce que c'est plus simple pour tout le monde de se dire que c'est pas possible des gens qui existent comme ça, ou d'essayer de trouver d'autres explications plutôt que de se confronter à la réalité un peu morbide de ce qu'on est en train d'évoquer. C'est ça qui explique tout le processus d'emprise, si tu veux.
Est-ce que seule la rupture est inévitable, ou est-ce qu'il y a... un espoir pour la victime de changer le pervers narcissique?
Ah non, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus, on ne change pas un pervers narcissique. Donc du coup, la seule solution, c'est de mettre un terme à la relation. Tous les conseils sont unanimes. Si la victime n'a pas de lien fort avec le ou la PN, donc un lien fort, ça va être un appartement en commun, un business en commun ou des enfants en commun, le conseil est unanime. Une fois la prise de conscience avérée, il faut partir le plus rapidement possible et le plus loin possible et organiser un no contact permanent.
D'accord, c'est vraiment rupture totale, quoi.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment la seule solution pour permettre à la victime de s'en sortir. Malheureusement, dans les cas où il y a un enfant ou un appartement en commun, ça va être plus compliqué, parce que ce lien à la patte, c'est ce que le ou la PN va utiliser pour continuer en fait à prolonger son emprise sur la victime. Donc dans ces cas-là, si la victime arrive à le faire, ce qu'il est recommandé, c'est de prendre le temps pour organiser sa fuite. Donc ça va commencer par, donc bien sûr, ne rien montrer au pervers narcissique, s'offrir des bulles de temps pour soi pour essayer de retrouver un peu d'énergie, tant physique qu'émotionnelle, ne plus rien dire de ses états d'âme au pervers narcissique, manger mieux, dormir mieux, prendre le temps de rassembler des preuves pour essayer de démontrer ce qui s'est joué, et surtout essayer de couper toutes les sources de fusion, c'est-à-dire essayer de mettre en vente l'appartement en trouvant des explications ou des astuces, supprimer tous les comptes joints, résorber les emprunts, voilà, en fait, essayer de reconquérir sa part de vie personnelle pour commencer à se préparer une autre vie.
D'accord. Et quels seraient en fait les risques possibles en cas de rupture, évidemment, de la part de la victime? Est-ce qu'elle s'expose à des risques de son côté?
Honnêtement, ça va dépendre du profil du pervers narcissique et de ce qui joue dans sa vie à ce moment-là, de s'il a rencontré quelqu'un d'autre ou pas, parce qu'en général, ils en ont souvent deux, trois sous le coude au cas où, mais dans certains cas, la victime peut courir un risque vital, même si c'est assez rare, mais ça peut arriver. Dans tous les cas, comme le ou la PN ne supporte pas l'idée que la victime le quitte ou la quitte, il ou elle va mettre en place tout un processus pour la faire douter, se relancer dans une hyper-séduction, et dans ces cas-là, ils sont très doués, ou alors se montrer complètement désemparés, menacer de se suicider si jamais la victime part, jurer d'aller consulter un psy, ce qu'il fera éventuellement une fois avant de tout arrêter. Voilà, ils vont vraiment essayer tout ce qui est à leur disposition pour que la victime reste, et parfois, malheureusement, ça marche. Ça va être la première tentative. Si jamais ils réalisent que ça ne marche pas, très vite, ils vont reprendre du poil de la bête. Et là, en fait, ils vont lancer tout un processus de laminage social. Ils vont faire campagne, en gros, contre la victime, en allant rencontrer tous les amis communs pour allier les suffrages, en faisant en sorte de ruiner financièrement la victime et de l'épuiser psychologiquement pour qu'elle finisse par perdre son travail ou qu'elle puisse pas le tenir sur la durée. Et s'il y a des enfants, ils vont essayer d'avoir la garde, non pas par affection pour les enfants, mais vraiment pour faire du mal à la victime. Et ensuite, ils vont multiplier toutes les tracasseries qui peuvent exister et toutes les démarches possibles pour venir laminer encore et encore la victime, avec comme message sous-jacent « Tu as décidé de me quitter, je te fais le serment que tu ne seras jamais heureuse sans moi. »
C'est assez fou. Avec les interviews que tu as menées et les entretiens sur des victimes qui s'en étaient sorties, comment est-ce que justement ces victimes-là ont pu se relever de ces relations, après y avoir mis fin, bien sûr?
Oui, alors c'est vrai qu'on est en train d'aborder un sujet qui est extrêmement sombre, mais pour autant, moi j'ai rencontré vraiment beaucoup de victimes qui ont quitté ce genre de relation. Et en fait, elles ont décrit les mêmes mécanismes. Au départ, elles ont douté beaucoup. C'est vraiment leur instinct de survie qui a pris le relais et qui les a fait sortir de la relation un peu dans une zone d'irréalité. Ensuite, elles ont cherché à comprendre en quoi consistait en fait l'emprise perverse narcissique, quels étaient les mécanismes sous-jacents qui avaient pu être mis en œuvre. Elles ont ensuite toutes décrit ce besoin d'aller déposer leur histoire pour qu'elles prennent corps, pour qu'elles sortent de leur tête, parce qu'en fait, la réaction régulière des victimes d'emprise, c'est de se dire que c'est elles qui sont folles, que c'est elles qui déraillent. Donc, il y en a beaucoup qui ont soit pu consulter un ou une psychologue ou un ou une psychiatre qui était outillé sur l'emprise perverse narcissique et qui a su accueillir la réalité de ce qu'elles avaient vécu et donc les reconnaître comme victimes. Et le fait d'être reconnues comme victimes, c'est ce qui va leur permettre, en fait, de passer du mode de victime au mode de résiliente. Et parfois, c'est quelqu'un de l'entourage qui va jouer ce rôle-là. Mais vraiment, il y a une prise de conscience de « je ne suis pas folle, j'ai vraiment vécu factuellement tout ça ». D'ailleurs, souvent, elles te disent qu'elles ont listé factuellement tout ce qu'elles avaient vécu, et c'est en lisant la liste qu'elles se rendent compte que ça a vraiment existé, que ça a vraiment eu lieu. Et ensuite, derrière, beaucoup d'entre elles sont allées travailler cette forme de stress post-traumatique qu'elles ont pu traverser via des techniques comme de l'EMDR, du neurofeedback ou de la médecine chinoise ou de la somatopathie qui leur a fait beaucoup de bien.
Oui, donc il y a vraiment tout un processus de réparation quelque part, parce que quand on a vécu ça, c'est comme vivre un traumatisme. Est-ce que, en tant qu'entourage, proche, famille, est-ce qu'il y a des actions possibles si on voit, par exemple, que quelqu'un qu'on connaît est dans une situation d'emprise ?
Alors, il y a des choses qui sont possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon sens, il faut éviter d'être trop frontal. Parce que, dès le début, en fait, le pervers narcissique, le ou la perverse narcissique, va aller identifier les personnes qui sont trop proches de l'entourage et va faire en sorte d'essayer d'isoler la victime de ces personnes-là. Ce qu'on peut faire quand on fait partie de l'entourage, c'est d'offrir une écoute attentive, d'essayer de ne jamais être dans le jugement et surtout de ne pas minimiser ce qui est dit. Revenir toujours aux faits, sans être trop frontal. C'est-à-dire manifester qu'on est étonné. Dis donc, quand il t'a dit ça, il était un peu cash, ouais. Ça m'a un peu étonné. Mais bon, après, on n'est pas dans, je suis pas dans ton couple, donc je sais pas comment ça se passe. Bon, ça m'a juste un peu surpris, ou être avec plus dans l'humour, tu vois. Mais dis donc, il est un peu gonflé quand il se fout de ta gueule comme ça. Bon, on peut comprendre qu'il rigole, mais quand même, faut pas pousser le bouchon, quoi.
Ouais, donc de vraiment de jouer sur l'humour et d'éviter d'attaquer trop frontalement, quoi.
Oui, c'est ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est quand la victime donne le sentiment, dit qu'elle a l'impression qu'elle est un peu folle ou paranoïaque, essayer de la ramener toujours sur les faits et surtout essayer de la comprendre. On peut aussi essayer de lui montrer ce qu'est une relation saine, juste par exemple, par effet d'exemple, sur des petits détails du quotidien, lui montrer les petites attentions qu'on peut avoir pour elle, sans jamais critiquer le ou la partenaire PN, mais montrer qu'une relation d'affection ou une relation d'amour, ça n'est pas ce qu'elle est en train de vivre, elle, dans son couple.
Je vois, je vois. Mais écoute, je crois qu'on a fait un tour assez complet sur le sujet. On a abordé les caractéristiques du pervers narcissique, comment ça se passait dans le couple. Je trouve que c'est assez hallucinant de voir à quel point ça peut être destructeur pour les victimes. Donc, je suis contente d'avoir pu en apprendre plus parce que je connaissais assez bien le mécanisme de la perversion narcissique, mais c'est vrai qu'au sein du couple, ça prend une toute autre dimension. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter pour peaufiner un petit peu ce dont on a parlé ?
Oui, en fait, on vient d'évoquer quelque chose qui est très, très sombre. À mon sens, prendre conscience de la perversion narcissique est vraiment une démarche qui est difficile et qui demande beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de temps et, à mon sens, de bienveillance en tant que victime. Ça suppose de faire le deuil d'une relation qui n'était pas sincère. Ça suppose aussi de se pardonner de ne pas avoir vu ou de s'être fait avoir ou d'avoir laissé faire. Mais ça implique aussi d'avoir une capacité particulière à voir le beau en chaque être humain et quelque part une force de caractère dont on n'a pas conscience. Donc pour moi, en fait, les victimes sont bien plus que des victimes. Ce sont des résilientes. Ce sont des personnes qui sont capables de beaucoup, beaucoup de choses. Quand elles prennent conscience de ça, c'est un peu comme une renaissance. Et la vie qui s'offre à elles dans ces cas-là, c'est vraiment une vie qui devient extrêmement intense et qu'elles sont prêtes à croquer à chaque minute de la vie. Donc, c'est presque un cadeau qui leur est fait derrière. Donc, je sais que c'est très poussé ce que je dis, mais toutes ces victimes que j'ai pu rencontrer et que j'ai vraiment envie de remercier aujourd'hui de la confiance qu'elles m'ont confiée, elles ont cette particularité-là de croquer la vie à pleines dents et c'est presque un cadeau qu'elles m'ont fait de me rendre compte qu'on pouvait envisager la vie différemment.
Oui, parce que finalement, se remettre d'une relation aussi nocive que celle d'avec un pervers narcissique, ça, enfin, en tout cas, quand on s'en sort, je suppose que la vie est tout de suite beaucoup plus, comment dire, rayonnante et qu'on peut d'autant plus profiter une fois qu'on s'est remis d'une telle situation. Donc, bon, on va pas dire que la rencontre avec un PN soit un cadeau.
Non.
Mais en tout cas, se relever de ça, c'est quelque chose qui nous rend plus fortes.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui.
Pour aller vers la fin de cet épisode, il y a une question que je pose à chaque fois. Sois sage et parle fort. Que t'évoque cette phrase ?
Alors, en fait, j'adore ce titre. J'adore les oxymores en général. Donc, elle me parle vraiment beaucoup. Et en fait, je me rends compte que ça aurait pu être la conclusion de mon livre, quelque part. Parce que, après avoir été trop sage, en fait, les victimes doivent apprendre à parler fort.
Oui, je vois. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté de venir sur Sois sage et parle fort. Donc, vraiment un grand merci. J'espère que toutes les personnes seront intéressées et pourront évidemment consulter ton livre. Donc, je rappelle, c'est « Emprise et perversion narcissique au sein du couple ». Comprendre pour s'en sortir aux éditions d'Angle. Donc vraiment un livre très complet que je recommande à toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées. Donc évitez de le mettre en devanture dans le salon si jamais vous êtes dans une relation pervers narcissique. Hein. Donc voilà, calmez-vous un petit peu quand même. Mais non, en tout cas, merci beaucoup.
Oui, moi je voulais te remercier. Je suis vraiment très contente d'avoir participé à ce podcast. Voilà, je trouve que tu fais des choses de très grande qualité, donc je suis très très émue de faire partie d'un des podcasts de ta playlist, quoi.
Écoute, merci beaucoup. J'espère en tout cas que l'épisode intéressera et que ça permettra aussi de mieux démystifier le sujet de la perversion narcissique, qui est quand même un vaste sujet. Donc merci à toi, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et évidemment, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort, beaucoup.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.